Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ni Verratti dans cet exercice-là, bon, ni Renato Sanchez.
Non, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est pour vous. Ça vous donne du pain à moudre là-dedans.
Franchement, je suis au courant de rien. C'est pas officiel, je crois. Donc, c'est encore des journalistes qui ont lancé ça, à mon avis, non ?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Bienvenue dans l'after, tout le monde. On est en direct jusqu'à minuit, comme tous les soirs, et 24h sur 24 en podcast. Toujours avec Kevin Diaz et Jonathan McCarty nous rejoint. Salut, Jo.
Salut, les gars.
Tout va bien ?
Salut, Jo. Nickel.
En forme. T'es venu comment, voiture ou...
Non.
Trouver de l'essence, non, je sais pas, t'es venu quoi ? En trottinette.
Je ne prends la Harley que pour le plaisir, en essayant d'apporter ma modeste contribution au fait de faire attention à tout ça.
Que pour le plaisir, c'est-à-dire quand tu viens à l'after, si tu viens pas pour le plaisir.
Ah, mais une petite balade par semaine, et le reste du temps, on essaye de participer à l'effort collectif.
C'est ça.
Mais c'est un plaisir de vous retrouver.
L'usine.
N'importe quoi. C'est un plaisir de vous retrouver, surtout pour élargir ma culture musicale.
Exactement, tu es au bon endroit. L'after, le week-end, c'est
on
du foot.
On va préparer quelque chose d'ailleurs.
Et de la musique.
Oh non.
On est ensemble jusqu'à minuit, les gars, et on va passer un long moment à débriefer le match nul entre Lyon et Toulouse ce soir. Un but partout. Supporters lyonnais, supporters toulousains, appelez-nous 32-16. Venez débattre avec l'after. L'OL qui vient de prendre donc un point sur 15. Lyon qui est ce soir, c'était le premier match en la 10e journée et qui reste 7e. Mais en attendant tous les autres qui vont jouer demain, les Toulousains 11e avec ce 12e point depuis le début de la saison. Bonne prestation ce soir, plutôt des Toulousains, appelez-nous, vous nous le direz. L'OM également au programme ce soir, avant Marseille-Ajaccio demain, avant PSG-Marseille dans une semaine. Leonardo Balerdi était en conférence de presse aujourd'hui. Finir champion, c'est possible, a dit le défenseur de l'OM. Êtes-vous d'accord avec Balerdi? 32-16, on en débat ce soir dans l'after. Beaucoup d'infos aujourd'hui à vous donner en fin d'émission, notamment Ribéry qui se dirige vers la retraite. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Lucas Hernandez? Qui est peut-être un peu plus blessé que ce qu'on pensait au début. Ça sera peut-être un peu juste pour la Coupe du Monde. Je vous donnerai ces infos. Et puis les infos aussi qui montent là, ces derniers jours, ces dernières heures, concernant le déplacement des supporters parisiens à Benfica. Je ne sais pas si vous avez vu ça, les gars. Notamment les fouilles qu'ils ont subies, ils et elles d'ailleurs, supporters et supportrices. Très poussées, trop poussées a priori. Il y a eu quelques témoignages recueillis par RMC Sport. On vous donne tous les détails, parce que le club aussi a réagi ce soir. Sur tous ces sujets, on vous attend, les gars. Vous faites le 32-16. Adrien est là au standard ce soir. On a Toto en régie avec Max dans l'oreillette. Venez débattre avec l'after et puis vous commentez votre émission, vous le savez, sur Twitter, le hashtag RMC Live, ou sur les applis RMC, RMC Sport. N'hésitez pas, la petite radio en haut à droite, le direct studio, et on lit vos messages en direct. Allez, 22h55. On commence par le plus important.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Les trois points que les Lyonnais ne voient pas beaucoup en ce moment. Kevin et Jonathan, vous allez nous donner les vôtres ce soir. Jo.
Premier point, l'hémorragie ne s'est pas arrêtée malgré ce point pris par l'Olympique Lyonnais. C'était 13 points pris sur les 15 premiers possibles, à 1 point sur les 15 suivants. La situation est catastrophique pour un Olympique Lyonnais qui est largement décroché des places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Le deuxième point, c'est simplement que Peter Boss doit s'en aller. On l'a assez défendu, notamment l'année dernière. L'on voit ses limites, il ne maîtrise plus rien et il doit absolument partir. Et le troisième point, c'est un gros coup de cœur pour la retraite de Franck Ribéry. Il y aurait eu des brouilles, il y aurait eu débat dans son histoire d'amour avec les Français. Je me rappelle du grand show qui avait été organisé par TF1, il me semble, avant la Coupe du Monde 2012, je crois. C'était Francky Superstar. C'était le chouchou des Français. Il y a eu les histoires avec l'équipe de France, Nice Night, etc. Mais quand on fera le bilan de sa carrière, on se rendra compte que Franck Ribéry a été un joueur énorme, alors que rien ne le prédestinait à avoir ce genre de carrière. Bravo et chapeau.
Notre dernier presque Ballon d'Or.
2013, il est pour lui, le Ballon d'Or. Ouais,
il aurait dû l'avoir.
Ah, y a même pas débat.
On en parlera tout à l'heure.
Pour certains, le dernier presque Ballon d'Or, c'est Raphaël Varane.
Oui, 2018 aussi.
Ça se défend. Ouais.
N'hésitez pas, hein, si vous voulez réagir, la retraite de Ribéry, on en parlera en fin d'émission.
2013, c'était un vol,
le 32-16.
Les gars.
Ah, on est d'accord, totalement d'accord avec toi. Kevin, tes trois points ce soir.
Mon premier point, c'est Lyon qui fait un match nul. Nul sur dans tous les sens du terme, parce qu'à part les trois premières minutes, honnêtement, ils ont été très décevants. Techniquement, on était là avec le coach.
Cinq minutes quand Adélaïde rentre.
Ouais, c'est vrai, un petit peu vers la fin. Mais c'est vrai que moi, déjà, techniquement, j'ai trouvé cette équipe vraiment, vraiment en dessous du niveau nécessaire pour finir dans les 5 premiers de Ligue 1. Ensuite, en deuxième point, c'est Peter Boss. Alors Peter Boss, s'il doit partir, qu'il parte, parce que comme ça on va pouvoir voir ce que va pouvoir faire son remplaçant. Moi, c'est un petit peu mon état d'esprit depuis quelques jours, voire depuis une dizaine de jours, où j'entends beaucoup de critiques. Ok, moi je les accepte pour Peter Boss, mais j'attends de voir avec impatience ce que va pouvoir faire son remplaçant. Et donc en troisième point, ça reste quand même le TFC qui avec sa colonie néerlandaise fait quand même une saison de Ligue 1 très correcte. Et encore ce soir, un match vraiment intéressant, parce que c'était pas facile de prendre un but très vite, et ensuite ils ont plutôt bien réagi dans le match.
J'aimerais rebondir sur les points de Kevin.
Ok, alors rebond sur les points, vas-y.
J'ai peur qu'on soit un peu vampirisé par l'actualité lyonnaise, mais c'est quand même pas mal ce qu'ils font. Alors les résultats sont un peu en dents de scie.
Le TFC,
mais il y a toujours une équipe qui est assez volontaire, et au final, tu vois, moi j'ai envie de tirer un petit coup de chapeau au travail de Montagnier, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup été décrié, notamment quand il était venu à Rennes. Il y a eu des moqueries, rappelez-vous les rumeurs quand il était en Espagne. Les gens disaient que c'était le Barça qui l'avait fait signer en Espagne dans un petit club pour qu'ensuite il prenne la place de, enfin pour qu'il s'assoie sur le banc du Barça. Mais au final, je pense que voilà, c'était pas l'entraîneur génial qu'on a voulu nous vendre au début, mais ça reste un très bon entraîneur de Ligue 1.
Alors on a déjà énormément d'appels au 32-16, beaucoup de Lyonnais. On va commencer par l'OL ce soir. Juste, je voudrais vous entendre sur un truc, les gars, c'est tous les deux votre deuxième point ce soir. Boss doit s'en aller, tu dis Jonathan. Kevin, tu dis Boss doit partir pour voir. Là, ce soir, il n'a pas perdu. La série s'arrête à 4 défaites, un match nul. Bon, Boss doit partir, là, ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est acté. Il ne doit plus être l'entraîneur de l'OL demain, selon vous?
Moi, je ne dirais jamais qu'un entraîneur doit partir. En tout cas, depuis quelques années maintenant que je fais l'after, j'ai souvent défendu les entraîneurs. Hein, d'ailleurs, avec Jonathan, on n'a pas toujours été d'accord sur certains.
Peter Boss, d'ailleurs.
Mais sur Peter Boss, on a été quand même assez...
Mais tu sais, quand un entraîneur était en difficulté, que ce soit Thomas Tuchel, que ce soit Villas-Boas, Patrick Vieira, n'en parlons même pas. Moi, je pense qu'il y a des situations dans des clubs où l'entraîneur est le fusible facile que je peux comprendre. Hein, c'est plus facile de changer un entraîneur que les 18 ou 25 joueurs d'un effectif ou une direction. Mais il y a un moment, moi j'attends de voir, vraiment avec impatience, sérieusement. Je suis sérieux, je suis pas ironique, j'attends de voir qui serait choisi si un jour Peter Boss s'en allait, et comme ça devrait arriver, j'attends vraiment de voir ce qu'il va faire avec cet effectif. Parce que j'entends beaucoup de choses sur cet effectif, mais je le trouve tellement déséquilibré, avec tellement de failles à tous les postes, dans toutes les lignes quasiment, que on va voir.
Jonathan, rapidement, et après je vais prendre Teddy au 32-16.
Alors, moi je pense qu'on n'est pas en désaccord sur cette situation-là, Kev. Moi aussi, je dis, je pense qu'il faut qu'il parte, mais après, attends, le mec qui va arriver, c'est un bourbier, il n'y a pas de problème. J'ai encore en mémoire Chéroux qui se pointait, qui faisait le malin en disant que le mercato de l'OL était tellement stratosphérique que Sampaoli avait eu peur et s'était barré. Bon, l'effectif, il n'est pas...
T'es pas le seul, j'ai des messages sur le direct studio là-dessus.
Il y a le retour de Boomerang. Après, il y a quand même des choses. Alors moi, l'année dernière, avec Kevin, je pense qu'on était sur la même ligne. On l'a beaucoup défendu, Peter Boss, en disant qu'il n'avait pas l'effectif qu'il fallait, qu'il n'avait pas les attaquants de couloir qui étaient nécessaires au style de jeu qu'il voulait mettre en place. Là, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs dans les choix. Tu vois bien, par exemple, que bon, il a s'entêté avec Thiago Mendes derrière. Bon, ça, c'est un vaste débat. Est-ce que c'est la direction qui n'a pas donné le défenseur, etc. Mais s'entêté avec Mendes encore ce soir, bah, ça te coûte un but. Quand tu vois la composition de départ, ce 4-4-2 avec Dembélé, Lacazette, moi, j'y ai jamais cru. Et tu vois bien que quand tu fais sortir Dembélé, que tu mets Reine Adélaïde, il y a une impulsion qui s'infuse dans la partie. Je pense qu'il y a on est arrivé dans un point où il ne maîtrise plus grand chose parce que le contexte est compliqué, parce que l'effectif a été dépecé. Tu perds coup sur coup Memphis Depay, puis là tu perds Paqueta, tu perds tes deux meilleurs joueurs à chaque fois et ils sont pas remplacés. C'est difficile.
Les gars, on va prendre Teddy qui nous appelle au 32-16, supporter de l'OL. Salut Teddy.
Bienvenue
dans l'after, Teddy. Je sais pas si tu veux commencer par Boss ou pas, mais est-ce que ça y est, c'est bon, il doit partir?
Non. Moi, je suis complètement sur la même ligne que Kevin. Peter Boss, moi, je veux pas qu'il parte, mais je lui souhaite de partir.
C'est-à-dire, explique.
C'est un peu ça, ouais.
Je veux pas qu'il parte, Peter Boss, parce que tout simplement, j'en ai marre qu'on déresponsabilise tout le temps les joueurs. En fait, j'ai l'impression que les joueurs le lâchent. Dans le sens où ils savent que juste avant la Coupe du Monde, il est dehors. Et eux, ils en ont rien à foutre, ils seront encore là, ils sont tous sous contrat. Et moi, je serai dirigeant de l'OL, j'attrape les joueurs, je les attrape tous, j'attrape le staff, et je leur dis, voilà, Peter Boss, il est là, son projet de jeu, c'est ça, son système de jeu, c'est ça. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si ça vous plaît pas, on vous trouve un club. Et le boss, c'est lui. Un peu ce qui s'est passé avec Arteta Arsenal.
J'allais prendre le même exemple.
Arteta, même avec le Pierre Aubameyang, qui était un cas assez épineux, et aujourd'hui, ça paye.
Mais c'est exactement le bon exemple que tu prends. Alors, on peut, bien sûr, un entraîneur, et c'est le coach qui le dit souvent, il a plus d'expérience que nous, un entraîneur, ça peut être inspiré, moins inspiré. Je suis d'accord avec Jonathan complètement sur le cas Thiago Mendes. Je sais pas pourquoi Thiago Mendes est là. Je comprends pas pourquoi il a été prolongé. Peut-être qu'il fait des choses à l'entraînement qu'on voit pas. En tout cas, moi, personnellement, de ce que je vois des matchs de l'Olympique Lyonnais, c'est une situation que j'ai du mal à avaler. Par contre, derrière, moi, je te suis complètement. Il y a un moment, si tu choisis un entraîneur, il faut aller au bout et il faut lui donner tous les ingrédients. Maintenant, encore une fois, c'est peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas le bon entraîneur. On va voir ce que vont décider les dirigeants. Mais il va falloir aussi que les dirigeants lyonnais se regardent dans une glace. Jonathan a parlé tout à l'heure de la sortie d'un tel. Il y a le recrutement de certains qui est pour moi incohérent. Il y a la place qui a été donnée à certains jeunes joueurs qui sont bien trop jeunes encore, à des années-lumière du niveau nécessaire pour la Ligue 1, etc., etc. Donc moi, je veux bien qu'on critique l'entraîneur. Je veux bien que ce soit plus l'homme de la situation, mais encore une fois,
découragé. Notamment dans l'attitude pendant le match où
je trouve au contraire qu'il était debout. Après, ça n'a jamais été Unai Emery. Ça a toujours été quelqu'un qui était assez flegmatique sur le banc.
Tu sais, moi, je pense qu'on remet pas en qualité de l'entraîneur en cause. C'est juste que là, je pense que le malheureusement, le divorce est consommé.
Non, mais je suis d'accord avec toi sur le 4-4-2, mais est-ce que le 4-4-2, c'est pas justement une tentative? Je sais, mais c'est un genre de tentative désespérée parce que c'est pas son jeu normalement.
Mais on est d'accord.
Il tente des choses.
Moi, je pense
qu'il l'a dit d'ailleurs avant le match.
Je pense qu'il faut qu'il parte parce que le divorce est consommé, tu le vois. Alors, je sais pas ce qui se passe en interne, mais tu vois clairement que il a un match par semaine, il n'y a pas de Coupe d'Europe et tu vois pas d'amélioration dans le jeu, t'as quand même le temps de travailler la semaine. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il est résigné.
Les joueurs qu'il y avait sur le terrain ce soir, c'est le niveau OL. Alors l'OL est devenu Rennes, Nice, Lille, c'est devenu ça l'OL. Si l'OL c'est devenu ça, en janvier, Aulas, il ne déclare pas qu'il veut gagner la Coupe d'Europe.
Ah, mais ça, c'est autre chose.
Mais non, mais c'est les supporters de l'OL, ils l'entendent, ça, Kevin. Les supporters de l'OL, ils entendent.
Mais je suis d'accord. Juste un détail. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Lyon a régressé. Il y a des réalités financières qui font que l'OL n'est pas en mesure de faire les mercato et les recrutements qui seraient à la hauteur du club. Mais, voilà, t'es un club coté en bourse, t'es obligé d'avoir ce genre de discours qui ne reflète absolument pas la réalité. Je te rejoins.
Mais, et Teddy, pour aller dans ton sens, moi, j'ai été joueur et ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que les joueurs, ils vont se trouver des alibis. Et bien les sûr. Dirigeants vont dans le même sens que les joueurs. Voilà. Il y a plein de dirigeants qui se séparent de certains entraîneurs mais qui ne le veulent pas. Mais ils se disent, c'est notre dernière ressource pour essayer de piquer les joueurs, pour essayer de responsabiliser les joueurs en leur disant, attention, on n'avait pas de bons résultats. On a tous regardé l'entraîneur. Par contre, si le prochain entraîneur y vient, là, c'est vous qu'on va regarder. Parce qu'il y a un moment. C'est ce fusible qui est choisi. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui jouent à l'Olympique Lyonnais, qui, au vu des ambitions, au vu du budget, au vu de la masse salariale, ne devraient pas être là.
Mais alors, pousse le raisonnement jusqu'au bout. Pour moi, c'est pas les joueurs le fautif. C'est que la politique sportive et la politique générale de l'OL depuis quasiment une décennie, elle est hors sujet. Ils se sont trompés. Ils se trompent depuis 5 ans sur les choix qu'ils doivent faire. Il y a eu ce choix qui a été fort de prendre Silvinho, qui était l'entraîneur étranger que tout le monde attendait en nommant Juninho directeur sportif. Ça a été un échec. Il y a eu le fait de continuer en nommant Peter Boss, qui était un choix que tout le monde a salué parce qu'on se disait enfin voilà un entraîneur avec des idées, etc. Mais t'as jamais été capable de mettre en adéquation et en cohérence le recrutement et l'entraîneur que t'avais sur le banc. Et ça, c'est ni de la faute des joueurs ni de la faute de l'entraîneur, c'est de la faute de la direction. Ponceau, Giroud, Aulas, ils sont à la ramasse.
Pour conclure, on a beaucoup
je suis d'accord avec tout ça. Okay. Après, voilà, c'est comme encore une fois, c'est le décalage entre ce qu'on entend et ce qu'on nous dit et ce qu'on voit sur le terrain.
T'es pas un gamin, t'es dit. T'es pas obligé de gober tout ce que l'AS raconte.
Après, bien sûr, Non, mais ça reste le président de l'OL et c'est lui qui parle dans les médias, malheureusement. donc voilà. Mais voilà, et aujourd'hui, il y a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau de l'OL. Tu peux mettre n'importe quel entraîneur, il y a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau de l'OL.
T'as dit.
Toko Ekambi. Mais si Toko Ekambi, c'est un attaquant de l'OL, si Dembélé, c'est le numéro 9 de l'OL, si Thiago Mendes, c'est le défenseur central de l'OL, et ben je vous dis, l'OL, c'est devenu Rennes, Lille ou Nice.
Merci voilà. Teddy d'avoir appelé, d'être passé dans l'after ce soir. Je te souhaite une bonne soirée quand même, un bon
salut,
week-end.
Merci Teddy. À vous, ouais,
salut,
merci,
Teddy. Salut, salut Teddy. À bientôt Teddy.
Il a dit quelque chose de très intéressant, Teddy, de très juste. Quand il dit, c'est peut-être une boutade, quand il dit l'OL et c'est devenu Rennes, Nice ou Lille.
Je suis pas sûr que ce soit une
boutade. Faut pas se mentir. C'est le niveau de l'Olympique Lyonnais.
Et encore, je crois que les supporters lyonnais aimeraient bien être Rennes en ce moment.
Bah oui. C'est bien.
On va demander à Augustin qui a fait le 32-16 supporter de l'OL. Salut Augustin.
Salut.
Salut Augustin.
Oui, j'imagine que quand tu t'entends Rennes, tu regardes Rennes un peu avec envie, en fait, quand même.
Bah, complètement. Bah, surtout quand on voit qu'un entraîneur comme Genesio, quoi, qui a été critiqué à tort.
Il te manque, toi, Genesio est-ce que tu faisais partie de ceux qui voulaient qu'il soit dehors?
Non, moi, vraiment, j'ai jamais compris pourquoi on l'appelait Pep Genesio d'abord. Enfin, j'ai jamais compris pourquoi on a été aussi dur avec lui. Je trouve qu'il a fait un travail qui était formidable. Il était soutenu par son équipe, on sentait que les joueurs étaient derrière leur coach. Quand on voit qu'il finit deuxième du classement, qu'il se fait soulever par toute son équipe, tout ça, je trouve que voilà, le travail qu'il a fait, le seul petit regret que j'avais eu avec Genesio, c'était son niveau en Ligue des Champions sur le match de la Juve, où il avait fait un choix pour moi.
C'était pas ça le problème, Augustin. Le problème, Genesio, ce qui était génial avec lui à l'Olympique Lyonnais, c'est que dans les gros matchs, l'équipe était toujours présente et que t'avais une équipe qui était quand même spectaculaire. Il y avait beaucoup de buts qui étaient marqués, des buts qui étaient encaissés aussi, mais l'équipe était toujours spectaculaire. Mais moi, si je dois lui reprocher une chose sur son passage lyonnais, c'est son irrégularité dans les petits matchs.
Alors on va pas refaire la carrière de Genesio à Lyon, justement, Augustin, par rapport, donc il y a eu Genesio. Bon, Boss aujourd'hui, maintenant, on en fait quoi de Peter Boss à Lyon?
Peter Boss, comme vous avez dit, hein, franchement, il faut qu'il parte. Après, moi, je trouve que voilà, on lui a pas laissé. Enfin, il a institutionnellement l'OL, c'est plus présent. Je veux dire, expliquez-moi depuis le départ de Juninho, quel est le projet sportif? Quand on voit le mercato qui est inerte, on se retrouve avec des joueurs attaquants qui ont quasiment l'animation offensive, elle est quasiment la même de partout avec des joueurs qui ont le même profil. Il y a aucune étincelle, aucun folklore. Des joueurs qui sont censés ramener du folklore comme Tété par exemple, il a pas le niveau pour, enfin un peu de dynamité, un peu comme peut faire Ryan Cherki par exemple, tout ça.
Tu peux pas me dire que Tété ne fait pas ce que peut faire Ryan Cherki quand même.
Je pense que honnêtement, en termes de capacité, je trouve que
laissez Augustin donner son avis. Moi, vas-y Augustin.
Je pense que Tété par exemple, c'est un joueur qui a plus ou moins le même profil que Cherki. Dans sa créativité de jeu, ça peut être un joueur intéressant à ce niveau-là. Sauf qu'il n'a pas la carrure d'un mec comme Alexis Sanchez à Marseille ou comme d'un joueur qui peut créer des différences sur le côté. Il y a personne qui crée des différences au niveau de l'attaque. Lacazette, c'est un super attaquant.
Mais Cherki, il est pas prêt pour endosser ce costume.
Cherki, il a été essayé contre Lens dimanche dernier.
Il n'est pas prêt, Cherki.
Complètement, mais je suis d'accord. Mais en même temps, c'est au niveau de l'institution. Si on veut faire épanouir des joueurs comme Cherki, il faut qu'on mette avec lui.
Mais il n'est pas prêt. Tu peux pas faire épanouir quelqu'un qui n'est pas prêt.
Après, il a raison sur un point, Augustin. Si c'est ce que tu veux dire, c'est qu'il manque de cadre et de référence dans l'équipe pour que les jeunes puissent progressivement être intégrés, progresser, etc. Pourquoi pas? Après, attention, il faut pas retomber dans ce fantasme lyonnais. C'était, je sais plus que le nom de notre éditeur qui nous appelait, qui était en kiff total sur Melvin Barre et nous en parlait comme si c'était Marcelo, Amaury. Voilà, je sais que vous avez ce tropisme sur le centre de formation. Moi, je te dis, Cherki, c'est un joueur qui a peut-être certainement plus de talent intrinsèquement que Tété, mais il n'est simplement pas prêt pour être un joueur de foot pro en Ligue 1 sur 90 minutes.
Ah mais c'est ma grande déception, il l'a prouvé contre Lens, je crois
et en plus c'est pas grave hein, Augustin, s'il est pas prêt maintenant,
lui laisser le temps,
il est encore jeune.
Mais moi je suis complètement d'accord pour dire qu'il est encore jeune et justement c'est ça qui est important, mais je pense que voilà, en fait c'est juste que on se retrouve avec un joueur de 19 ans qui a un des potentiels et un qui a le profil qui pourrait faire que l'équipe aille un peu mieux dans le jeu.
Mais si tu t'en remets sur un gamin de 19 ans pour que ton équipe, pour que Lyon, l'OL aille mieux, ça prouve bien que t'es mal barré.
C'est ça qui est désespérant. Et je trouve que voilà, on se retrouve avec une pointe de deux attaquants qui se ressemblent quasiment, dans plus ou moins un peu en pivot comme la
Ils se ressemblent pas, mais ils sont pas complémentaires.
Voilà, ils sont pas complémentaires avec l'animation offensive. Excusez-moi, elle est inerte, quoi. Enfin, c'est inerte. Il se passe rien. Donc, à un moment, j'ai l'impression de voir l'équipe de France en 2010, quoi. Enfin, il y a un moment, Il y a des passes, c'est tout à contre-jeu, ils n'arrivent pas à jouer ensemble, il n'y a aucun. Et pour revenir à Genesio, moi, je pense que ce qui fait sa grande force aussi, c'est qu'il a, on a l'impression que, je le connais pas personnellement évidemment, mais on a l'impression qu'il a un aspect humain de proximité avec ses joueurs.
Ça a l'air d'être un bon mec.
Voilà, et qu'il a l'air d'avoir la confiance de ses joueurs et qu'il a l'air de comprendre ses joueurs. Et à Lyon, ce qui va se passer, c'est que là, on peut changer d'entraîneur, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, on sait très bien que le problème, c'est au niveau de la direction sportive et au niveau des joueurs. Mmh. Et on peut mettre n'importe qui. De toute façon, on va mettre Garcia, on va se retrouver avec une barrière. Moi, je veux pas finir du deuxième du championnat avec une équipe qui joue à moitié, qui joue tout pour la défense, qui joue tout en solidité et qui a pas vraiment de beauté pour se retrouver. Voilà, je trouve que c'est dommage.
Le vrai problème de cet Olympique Lyonnais-là, c'est le Boulard. C'est pas le Boulard des joueurs, c'est le Boulard de la direction. C'est le Boulard de Jean-Michel Aulas qui t'annonce que qu'il va gagner la Coupe d'Europe. C'est le Boulard de Chéroux qui parle beaucoup mais qui est nul qui fait rien du tout. C'est Ponceau qu'on n'entend pas certes, mais on sait l'importance qu'il a dans l'ombre, il est forcément responsable. Mais les deux là, Chéroux et Aulas, ils parlent tellement. Mais il serait mieux inspiré d'aller travailler, de se mettre au boulot et d'essayer de construire une équipe potable.
Mais Chéroux, qui est-ce qui va ramener Chéroux? À quel moment il va ramener quelqu'un? Je veux dire, c'est pas un nom comme Pablo Longoria ou alors c'est pas Juninho.
Augustin, pour finir. Je suis sur un match de Bruno Genesio. Hein, je vais aller très vite. Le 30 novembre 2016, Nantes 0, Lyon 6. Ok, mais je vais te dire l'équipe de Lyon.
Et
il y a Anthony Lopez, il avait 10 ans de moins. Alexandre Lacazette, pareil. Tolisso, pareil. Il y a Gonalon, il y a Darder, un des plus beaux joueurs de foot que j'ai vu à Lyon en termes techniques. Il y a Guézal, il y a Mathieu Valbuena dans la force de l'âge. T'as Mokhtar Diakabi qui est titulaire à Valence. T'as Raphaël à droite. Je veux dire, les gars, c'est pas la même équipe non plus.
Les gars, je remercie
c'est pas la même équipe,
Augustin.
Même l'équipe avec Memphis et Mariano, c'est autre chose, hein.
Augustin, pour conclure, Augustin, parce qu'il y a beaucoup d'appels, beaucoup de supporters lyonnais. Les Toulousains aussi, on vous attend. On débriefera ce bon match toulousain. Mais là, pour l'instant, on a encore beaucoup de Lyonnais. Oui, Augustin.
Si on avait gagné 1-0 ce soir, la déception était encore là et le changement, il doit être radical. Enfin,
bien sûr.
Il n'y a pas le choix, quoi.
Merci, Augustin.
Merci de m'avoir
fait. Salut, Augustin.
Avec plaisir, Augustin. Passez une bonne soirée. Un bon week-end, bye bye Augustin, à bientôt. Il est 23h15, c'est l'after en direct sur RMC jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, avec Jonathan McCarty. On est avec Edouard G, avec Jérémy Donzé au Groupama Stadium. Dès que Peter Boss arrive en conférence de presse, on vous le fera écouter en direct. Je vois beaucoup de messages aussi sur le direct studio, sur le hashtag RMC Live, sur le direct studio. Théo écrit Tété ne crée rien, ne dribble pas, c'est juste un finisseur de temps en temps. Kamel écrit ce qui me frappe, mis à part les tweets d'Olas, qui de la direction de l'OL a pris l'initiative de venir parler de cette situation catastrophique de ce club. C'est carrément un avion sans pilote. J'accueille Newfell qui nous a appelé ce soir dans l'after au 32-16. Salut Newfell.
Salut tout le monde.
C'est de quelle origine ton prénom?
Salut Newfell.
C'est Kabil.
D'accord. Bienvenue dans l'after, Newfell. Supporter de l'Olympique Lyonnais?
Malheureusement.
Raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir après ce match nul là?
Alors, première chose, je voulais revenir sur ce que vient de dire Augustin, et c'était assez catastrophique par rapport à Cherki, il faut arrêter. Cherki, comme vous l'avez dit, c'est pas un joueur de foot, c'est un joueur de futsal, c'est un joueur de five, c'est un joueur de quartier, mais rien de plus. Mais il faut arrêter ce clubie avec lui. C'est pas avec Cherki que l'intentionnel arrivera à faire quelque chose.
On dirait quand même, au Newfell, qu'il y a un vrai débat, même entre supporters lyonnais, parce que on entend quand même les deux, hein. Tu vois, Augustin juste avant, mais c'est le cas, toutes les semaines, il y en a beaucoup d'entre vous qui comprennent pas qu'il soit pas titulaire, puis il y en a aussi comme toi, c'est pas tranché, quoi.
Mais moi, je veux pas être tranché sur Cherki. Tout à l'heure, j'étais pas d'accord avec Augustin, mais Newfell, je vais pas être d'accord avec toi non plus. C'est juste un joueur qui a été lancé bien trop tôt, à 16 ans, on me disait, ouais, Cherki ceci, Cherki cela. Tu te rends compte pour l'équilibre psychologique d'un joueur qui a toujours rêvé, lui, qui a envie de jouer, qui pense que c'est le meilleur du monde, et c'est normal de penser ça à cet âge-là. Mais en fait, tu n'aides pas ces joueurs-là. Et les supporters, en le mettant à un niveau où il n'est pas, je te parle pas de toi pour le coup, là je vais parler plutôt style Augustin, mais en fait ça ne l'aide pas non plus, mais le rabaisser ça va pas l'aider non plus, il va falloir qu'il trouve peut-être, et c'est pour ça qu'Alexandre Lacazette va être important, s'il lui parle voilà, chaque jour en disant attention, prends ton temps etc, etc.
Tu vois. Et d'ailleurs, juste parenthèse, je te redonne la parole Newfell, mais cette semaine dans l'épisode de le podcast After Lyon, coach Courbis conseillait à l'OL de prêter Cherki en fait à 19 ans, qui est encore jeune, et d'aller le prêter qui, voilà, donc je rappelle que les podcasts After Lyon, Paris et Marseille sont toujours en ligne. Newfell, outre Cherki, est-ce que t'as d'autres choses, d'autres décisions que tu voudrais voir prises à Lyon?
Bah, comme je disais à Adrien au Standard, on a connu le film 11 hommes en colère, là on a 11 hommes en dépression. Il se passe rien sur le terrain, il y a aucune combinaison, il y a rien, les joueurs se traînent sur le terrain, ça fait les Walking Dead, et c'est triste en fait. Vous parliez à l'instant de l'équipe de Genesio, bon, faut comparer ce qui est comparable, mais la principale différence, c'est qu'il y avait une équipe, en fait. Il y avait une équipe, et aujourd'hui, c'est plus le cas.
Mais c'est pas qu'il y avait une équipe, Newfell, c'est qu'il y avait des joueurs. Donc, je continue, si tu me laisses encore 10 secondes, parce que tu me dis, il y avait une équipe. Mais il y avait plus qu'une équipe, puisque ensuite, ils gagnent 3-1 en janvier contre Marseille, et il y a un certain Memphis Depay qui vient de signer. Numéro 10, t'as Nabil Fekir. À gauche, t'as toujours Valbuena, t'as Maxwell Cornet, et toujours Lacazette qui met un doublé. Donc, les gars, arrêtez de me dire qu'il avait une équipe. Il avait une équipe, mais il avait surtout des joueurs monstrueux pour la Ligue 1.
Il y avait des joueurs aussi qui avaient envie. Il y avait aussi des joueurs qui avaient envie. C'est aussi la différence avec ce soir.
Je sais pas si la différence c'est l'envie. Je veux pas. Moi, on a dit tout ce qu'on pensait de bien de Peter Boss, mais je pense qu'à un moment il y a aussi le cadre dans lequel le coach met ses joueurs. Maintenant qu'on a bien désingué la direction, faut quand même aussi regarder sur le terrain. Quand je vois par exemple la composition de la charnière centrale s'entêter avec Thiago Mendes, alors que t'as Loukeba sur le banc, qui n'est pas le joueur du siècle, certes. Non. Mais pourquoi pas? Tu vois, je pense qu'il peut, il y a quelque chose à faire. Quand tu vois que il y a ce, tu sais très bien que Lacazette et Dembélé. Diomandé qui est sur le banc, mais qui jouait, qui avait joué le match précédent contre Lens, ouais. Il n'a pas forcément été très bon. Tu le sors, c'est un jeune. Moi, je pense que les deux, ils peuvent avoir des automatismes. Loukeba et Diomandé, ouais, deux vrais défenseurs centraux de métier. Tu peux quand même, tu vois, essayer d'installer quelque chose, un peu de sérénité dans cette défense centrale-là, même si c'est deux gamins. Quand je vois que tu t'entêtes à faire Dembélé Lacazette, alors que dans un 4-4-2, alors que les deux sont incompatibles, c'est une erreur de coaching. Quand tu vois que dès que Ren Adelaïde rentre, il y a un truc nouveau qui s'instaure. Alors c'est bien de changer en cours de match, mais je pense que ça aurait dû être fait dès le début. Il y a quand même des choix de l'entraîneur que je trouve assez douteux. Voilà. Et c'est ça qui me fait dire que Peter Boss a perdu la maîtrise et l'emprise qu'un entraîneur normal doit avoir sur son groupe.
Mais c'est dommage parce que, enfin, moi j'aime beaucoup Peter Boss. Il va se faire virer. De toute façon, si c'est pas aujourd'hui, ce sera avant la Coupe du Monde ou après. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on a pris un coach de bon niveau, de haut niveau même, mais malheureusement ça n'a pas marché et voilà. Force est de constater qu'il faut passer à autre chose maintenant.
Newfell, merci beaucoup. Tiens, juste avant de partir, alors cadeau ou pas, je voudrais te faire écouter parce que j'ai beaucoup de messages sur le Direct Studio qui me parlent de ce moment. Je nous ramène, souviens-toi l'été dernier, nous sommes début juillet.
Je sais ce que tu vas passer.
Oui. Bruno Chéroux, écoute.
Il y a peut-être des coachs dans d'autres clubs de Ligue 1 qui sont en train de vouloir partir parce qu'ils sont jaloux du recrutement qu'on est en train de faire.
Voilà. Il parlait bien sûr de Sampaoli qui s'inquiétait du recrutement à l'OM et qui était parti et il venait de signer Tolisso et Lacazette. Ouais, Kevin.
Il était sérieux ou je me rappelle plus du ton? Il était sérieux ou c'était un peu sous le ton de la blague?
Non, sérieux.
Deux,
petit sourire en coin. Évidemment, on est content, on fait mieux que les autres, mais bon, c'est
ils avaient
compliqué.
Fait signer de tête le penant Tolisso que Marseille suivait, Longoria le voulait, et Tolisso et Lacazette.
Newfell, merci beaucoup.
Merci les gars, à bientôt.
Passe une bonne soirée, à très vite, tu rappelles quand tu veux, bye bye Newfell. Fait énormément de messages ce soir sur le Direct Studio, sur les applis, vous êtes là, les Lyonnais. On prendra le temps de débriefer le match de Toulousain aussi, si vous voulez nous appeler, supporters toulousains, n'hésitez pas, on vous fera de la place ce soir dans l'after. Vous appelez le 32-16, message de Patrick. Elle est à combien la cote de Peter Boss qui est débarqué? Très faible, effectivement, je pense. Hervé écrit, Cherki, comme beaucoup d'autres, est victime du syndrome Mbappé. Beaucoup pensent que tous les jeunes peuvent sauter les étapes, comme le gamin gamins de Bondy, mais des Mbappé, il y en a un tous les 50 ans.
Ouais, mais...
N'en déplaise à Jonathan.
Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que les Lyonnais sont souvent tombés amoureux des joueurs offensifs qui sortaient de leur centre de formation. Il y en a eu des très grands qui sont sortis. Benzema, Ben Arfa, Fekir, ce que vous voulez. Mais il faut aussi voir le nombre de ratés hein, derrière. Des joueurs comme Balouli, Ghezal, ils avaient une hype énorme aussi quand ils sortent du centre de formation lyonnais. On voit où est leur carrière aujourd'hui. William Jubels fait quoi à Monaco? Ouais, encore jeune, hein, il a 22 ans.
Bonne question de
William Jubels. Il a 22 ans. Mais quand il est à Lyon, les gens, ils en parlaient comme c'était un futur ballon d'or. Donc à un moment, il faut aussi se calmer et il faut être capable d'intégrer tes jeunes de manière progressive. C'est très bien. Lyon a un centre de formation qui est extraordinaire. Il forme d'excellents jeunes. Mais l'intégration en équipe première, c'est quelque chose qui se travaille.
Mourad Mars écrit sinon Sampaoli, il est libre. Ben non, Mourad Mars, non, il a signé hier à Séville. Il remplace Lopetegui, donc Sampaoli n'est plus libre. On accueille Benjamin dans l'after, supporter de l'OL. Salut Benjamin, bienvenue.
Salut Benjamin.
Salut Benjamin.
Ben, on t'entend très bien. Et toi, est-ce que tu nous entends?
Ouais, je vous en super.
T'étais au stade, hein, c'est ça?
Ouais, j'étais au stade. Pour info, moi je suis bas de gomme et j'étais tout en bas du virage. Et ce soir, il y a un gros coup de gueule que je vais passer, c'est que c'est une honte. C'est une honte aujourd'hui d'être lyonnais parce que, à part deux joueurs qui sont Loukeba et Lopez, il n'y a rien eu. Mmh. Aucune envie, c'est inadmissible. Cherki rentre, c'est zéro pointé. Comme sa prestation au dernier match, c'est zéro pointé. Cherki a, voilà, il a une occasion, il la prend pas. Et moi, je pense que ce soir, le message que je veux faire passer, c'est la direction réagissez. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on laisse Peter Bosch encore titulaire dans son poste d'entraîneur. Au vu de ce qu'on a laissé à Silvinho à l'époque, seulement 6 journées, on l'a viré. Et là, Peter Bosch, on le laisse tranquille. Les trucs de l'As sont totalement lunaires et complètement à côté de ce qui se passe.
Mais tu penses pas que la direction lyonnaise, qu'on a beaucoup critiquée là, jusqu'à présent, là, ce soir, a quand même conscience que ils ont foiré leur mercato et que l'entraîneur a ses torts, hein, je les ai pointés du doigt, mais que l'entraîneur, les torts sont aussi partagés avec cette fameuse direction. Je pense qu'ils sont pas si bêtes que ça. Hein.
Alors... Moi, je te donne mon avis de supporter vraiment, et bad gun. Je ne vois aucune réaction de la part de la direction, de la part du responsable de recrutement, de la part du directeur de football, enfin, si on peut appeler ça un directeur de football, comme Vincent Bonceau. Il n'y a aucune humilité de leur part en se disant, oui, peut-être qu'on a fait une erreur. Ola, c'est le même discours depuis 8 ans. C'est, oui, je transmets votre amour de supporter à l'équipe. Ça fait 8 ans. Qu'on entend ça. 8 ans, oui. On a le même discours, il y a zéro titre.
Et tu penses pas que c'est Ponceau et Chirou qui doivent sauter avant l'entraîneur, pour le coup?
Alors pour moi, c'est pas Chirou et Ponceau, c'est Aulas, Chirou, Ponceau, Peter Bosch.
Les quatre? Ouais.
Les quatre. Tu vois, un exemple très simple. On annonce un rachat en juillet par Textor. Ok? Très bien. Et là, il nous arrive quoi? Patate chaude. Et moi, je l'avais senti. Et ben voilà. Bizarrement, Textor n'a pas encore les fonds et on repousse la vente. En fait, le problème de l'OL, c'est qu'on communique bien avant que les choses se passent.
T'es un peu obligé. Parce que t'es coté en bourse, etc. Ça peut être entre guillemets pardonnable. Le problème, c'est que
au-delà de ça, c'est un mécontentement général.
Mais bien sûr.
Et là, je parle autant en mon nom et je pense en tant que.
Mais ça, mon gars, on l'a compris. Hein, on prend la température des supporters. Ils sont tous dans cet état d'esprit-là. Après, il y a quand même une chose qu'il faut absolument souligner aussi, c'est que quand tu parles de Textor. Alors, je pense que le rachat va se faire. On s'est tous renseignés.
Nouvelle date, c'est passé donc du 30 septembre au 21 octobre.
Mais là, encore une fois, dans la lignée des effets d'annonce et du fait de manquer d'humilité, de trop parler, l'interview de Textor, alors que les fonds n'ont même pas encore été rendus disponibles
à l'américaine,
c'est du même calibre que la déclaration de Chirou. Et c'est, je pense, le cancer de cette direction lyonnaise là, c'est le manque d'humilité. Le fait de bomber le torse et de pas assez travailler. Parce que là, ce qu'on voit, c'est un club qui est en perdition. C'est pas normal que l'Olympique Lyonnais ne soit pas qualifié en Coupe d'Europe pour X années consécutives comme ça. C'est n'importe quoi. Un club de cette dimension, avec cette surface financière, avec ce stade-là, c'est incompréhensible.
Benjamin, pour conclure.
Ouais, je suis d'accord. Et moi, il y a une deuxième chose que je veux dire, c'est que Olas s'est trop concentré sur construire un secteur commercial autour du stade.
Oh, mais ça, il le fallait.
Benjamin.
Oui, ok, ouais. il le fallait. Certes, il le fallait. Sauf que depuis qu'on a construit l'OL Valais, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'équipe masculine, et je dis bien masculine parce que les féminines relèvent le niveau de l'OL. Et je tiens à le dire que les fenotes relèvent le niveau de l'OL. Et merci à elles. Merci à elles. Parce que depuis que M. Olas veut qu'on soit son business lyonnais autour du stade, il n'y a plus rien pour l'équipe masculine. Mmh. On a laissé partir Paqueta à West Ham. Ok? Et on le vend combien? 50 millions avec bonus. Est-ce que c'est pas du foutage de gueule, ça? Est-ce que c'est pas du foutage de gueule qu'on n'est pas
non.
au moins
honnêtement, non, c'est pas, du, c'est pas du foutage de gueule. Au vu du niveau qu'il avait sur les derniers mois, c'est pas du foutage de gueule.
Oui, sur l'ensemble. En vrai, l'after, sur l'ensemble. Est-ce que Paqueta ne valait pas 50 millions secs?
Non, c'est dur à dire.
C'est du détail, Benjamin, non? Benjamin, c'est du détail, là.
C'est une belle vente, t'as fait une plus-value, faut voir le nombre d'années de contrat qui lui restait, etc. 50 millions, pour moi, c'est très bien vendu. C'est de l'anomalie, c'est d'avoir réussi à vendre Guimarães aussi cher. Même si Guimarães est un super joueur. Après, pour conclure sur ce dossier-là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, rappelez-vous, des années où on disait Lyon est en train de construire son stade, donc il y a moins d'argent qui est disponible, pour investir dans le mercato. Mais c'est une phase de construction sur le long terme. Vous verrez que quand Lyon aura son stade, etc., l'argent va revenir pour être investi sur le marché des transferts. Malheureusement, cette phase, on l'attend toujours.
Les gars, réaction de Lacazette. On attend toujours Peter Boss en conférence de presse. Lacazette, lorsque la question lui était posée par le diffuseur Amazon, est-ce que vous voulez que Boss reste? Lacazette a répondu, je cite, « Moi, je veux gagner des matchs. » Il a expliqué ne pas comprendre pourquoi Boss a fait sortir un attaquant après l'égalisation toulousaine. Dès que Peter Boss arrive en conférence de presse, on l'écoute. Je remercie Benjamin de nous avoir appelé ce soir. Merci Benjamin.
Merci à vous, les gars. À vous, les gars.
Bon, t'as donné quand même de la voix au stade, hein. On entend qu'il reste, plus beaucoup de cordes vocales.
J'ai un peu perdu ma voix, mais comme tous les week-ends.
Bon, allez, voilà. Bon week-end, Benjamin. Ciao, à bientôt dans la fleur.
Salut, bye bye.
On est en direct jusqu'à minuit avec Kevin Diaz et Jonathan Macardy. On continue de débriefer le match nul entre l'OL et le TFC, un partout, supporters toulousains. On vous attend, appelez-nous au 32-16. Dans un instant, on s'intéresse à ce match nul plutôt bon. Bah, venez nous le dire si c'est un bon match nul ou pas du TFC. Et tiens, juste avant, on enlève la petite musique. Et on retourne au Groupama Stadium. Peter Boss s'installe en conférence de presse. On l'écoute en direct sur RMC tout de suite. C'est sa première réponse, hein. Il vient d'arriver.
Non, mais c'est vrai. Deux minutes, tu marques un but. Je comprends, après quatre défaites, la confiance n'est pas au top niveau. Mais quand tu marques après deux minutes, tu penses, ok, ça c'est super. Mais il faut être honnête, le premier mi-temps, c'était très très mauvais de notre part. On n'a pas joué. On n'a pas pressé. Et heureusement, c'était 1-0. Et même si le deuxième mi-temps était meilleur, là, on était mieux placé, on a mieux joué. On a eu quelques occasions. Mais ce soir, il n'y a qu'une chose qui compte, c'était le résultat. Et le résultat, c'est gagner à la maison. On n'a pas fait, donc on est très dessus.
On sent des joueurs en manque cruel de confiance.
Question d'Edouard G. Les joueurs en manque de confiance.
Oui, mais... Bon, on peut dire ça, mais t'es un joueur de l'OL et tu joues dans un grand club. Là, il y a toujours pression, cette fois-ci, parce qu'on a quatre fois perdu. Mais on joue à la maison et il faut le dire, les supporters étaient super. Ils étaient derrière nous, ils sont nous encouragés. Donc c'est notre boulot de donner tous. Et comme j'ai dit, le premier mi-temps, c'était pas bien de notre part, il faut le dire. Deuxième mi-temps, on a mieux joué.
On va se faire une troisième réponse. Les propos de Lacazette.
Indiquer qu'il ne comprenait pas votre choix d'avoir fait sortir vous savez, Mêlé. Une question pour savoir si vous deviez rester ou non coach de Lyon. Il a dit, moi, ce que je veux, c'est gagner des matchs. Est-ce qu'il y a une fracture ce soir avec vos joueurs?
Fracture avec les joueurs.
Répète encore la question.
Alexandre Lacazette en...
Donc là, le journaliste est en train de dire ce que je vous avais dit, la déclaration de Lacazette au micro du diffuseur. Il ne comprenait pas que Peter Boss ait fait sortir un attaquant après l'égalisation toulousaine. Et donc, il lui demande s'il y a une fracture entre les joueurs et lui-même.
Est-ce que ce soir, il y a une fracture entre vous et vos joueurs, en la plus forte raison, le capitaine?
Peter Boss en direct.
Non.
Vous comprenez ses déclarations ?
Il est agacé quand même.
Oui, si. Alors, s'il a dit ça, je comprends maintenant que tu dis. Mais tu, mais ton question, finalement, c'était est-ce qu'il y a une fracture entre lui et moi ? C'est ça ?
Notamment.
Ouais.
Les déclarations sont quand même fortes.
Et la réponse, c'est. Ouais, mais écoute, je ne vais pas parler avec toi de mon capitaine. Je ne vais pas. Ça, je vais avec lui, pas avec toi. Donc, la question, est-ce qu'il y a une fracture ? Non.
La semaine passée, vous n'étiez pas inquiet pour votre avenir. On s'était vu à Lens.
Moment important. Hein. On reste un peu plus longtemps que d'habitude parce que conférence de presse importante.
Mais tu posais la question aux mauvaises personnes. Parce que ce n'est pas moi qui décidais ça. Donc, poser la question aux personnes qui décidaient ça. D'accord ?
Est-ce que vous envoyez des motifs de...
Normal.
D'espoir pour que Lyon gagne ?
Oui, mais bien sûr. Je vois comme entraîneur toujours l'espoir. C'est moi qui gérais l'équipe, qui entraîne avec eux, qui parle avec eux. Et le moment où je ne vois pas ça, c'est moi qui dis au président, « Président, je ne vois pas comment on veut continuer. » Donc moi, oui, je vois.
On va tenter une dernière réponse.
Ouais, mais je travaille maintenant plus d'un an avec ces joueurs, avec la plupart des joueurs, donc plus d'un an. Avec quelques joueurs plus petits. On sait, et les joueurs, ils sont déjà montrés, ils peuvent mieux faire. Mais comme équipe, il faut mieux faire. Et l'espoir est toujours là, bien sûr. Et la deuxième mi-temps aujourd'hui, c'était mieux que la première mi-temps. Mais aujourd'hui, c'est qu'une chose. On peut parler de stratégie, de tactique, de n'importe quoi. À la maison, il faut gagner contre Toulouse. On n'a pas fait. Donc, on est très déçus là-dessus.
Voilà la première réaction de Peter Bosz ce soir dans l'after en direct sur RMC. Agacé, très agacé, mais bon, qui tient le cap, quoi.
Non, mais alors là, de toute façon, on peut ne pas être d'accord avec sa tactique, on peut ne pas être d'accord avec ses choix footballistiques. Mais la communication, il est excellent. Surtout dans une langue qui n'est pas.
Pourquoi excellent?
Parce qu'on voit qu'il est agacé, mais il répond quand même aux questions. Il est assez clair. Il a toujours une analyse très correcte. Il dit qu'il menait 1-0 à la mi-temps, mais qu'il n'était pas bon. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui disent ça. Il dit qu'en deuxième mi-temps, c'était mieux, même s'il n'a pas marqué en deuxième mi-temps.
L'analyse est là, mais bon, on attend plus des solutions qu'une analyse.
Oui, mais c'est ce qu'on dit. On ne va pas se répéter par rapport à la première demi-heure de l'émission. Il y a un moment, déjà faire l'analyse, je pense que c'est la plus grande qualité d'un entraîneur, d'être lucide directement après un match de ce qui s'est passé ou pas passé.
L'after.
Après, le niveau des joueurs, le niveau du recrutement, c'est autre chose.
Continue dans un instant avec Kevin Diaz, Jonathan McCarty. Max, écoute la suite de la conférence de presse, il se passe quelque chose. Évidemment, on vous diffuse l'extrait sonore. A tout de suite dans l'after pour finir de débriefer ce Lyon-Toulouse un partout ce soir. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz et Jonathan McCarty, merci d'être là, 23h37, en ce vendredi 7 octobre. Les Lyonnais sont là, les gars, je vous le dis. Vous êtes là au 32-16, nombreux à appeler. Vous êtes là aussi sur les réseaux sociaux, notamment le Direct Studio. Énormément de messages ce soir, je peux en lire très peu. On a écouté Peter Bosz en direct. Pour le moment, il n'a rien dit de plus, notamment sur la question de la fracture qui lui a été posée avec Lacazette. La déclaration de Lacazette que je vous ai lue, c'est un peu moyen quand même. Là, il lâche clairement son coach. Il peut botter en touche et aller dire les yeux dans les yeux au coach. Là, de dire ça en public, c'est un peu bof.
Quand on lit toute la décla en entier, c'est un tout petit peu moins pire. Après, il y a quand même une remise en cause et en question claire et nette de l'autorité de l'entraîneur de la part du capitaine, notamment quand il parle du choix de sortir Dembélé. Ouais. Il explique, j'ai donné le reste de la déglace, si tu me permets.
Vas-y, rapidement, je t'en prie.
Il dit, on était bien avec Moussa devant, alors que moi je trouve que Dembélé était nul. Le coach a fait ses choix, on est obligé de les respecter. Moi qui suis attaquant, je ne comprends pas toujours quand l'attaquant sort alors qu'on a besoin de marquer. J'aime beaucoup jouer avec Moussa et c'est à nous de continuer à travailler. Quand on voit le match de ce soir, je ne pense pas que ce soit clair pour tout le monde. Moi, je veux gagner des matchs. Ce n'est pas à moi de décider s'il reste ou non. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est quand même très limite. Bah, et quand vous parlez de fracture et que, voilà, au bout d'un moment, quand le divorce est consommé, je ne dis pas que c'est forcément de la faute de l'un ou de l'autre. Bah, tu vois bien que tu peux plus continuer comme ça.
Et sur le hashtag, déjà,
sur live, ça nous dit tout ça.
Mbappé écrit, alors pas le vrai, hein, un tweetos écrit pas encore de fracture, c'est ce qu'a dit Bosz, mais quand il va revoir Lacazette, il va lui casser les jambes après sa déclaration. Effectivement. On continue et on termine de débriefer ce match nul ce soir pour ouvrir la 10e journée de Ligue 1 entre Lyon et Toulouse, un but partout. D'ici minuit, on parlera de l'OM qui joue demain contre Ajaccio et de Balerdi qui pense que le titre est possible pour l'OM. Est-ce que vous êtes d'accord, supporter marseillais, supporter parisien d'ailleurs, pourquoi pas, n'hésitez pas, 32-16. On a débat dans un instant, mais d'abord...
Ça dépend de lui en fait.
De Balerdi, ouais. C'est lui, on en parle dans un instant. Mais on est avec Younes, supporter du TFC. Salut Younes.
Ah Younes.
Salut à tous.
Ah Younes.
Salut Jo, ça va ?
Qu'est-ce que ça fait plaisir de te réentendre ?
Younes, t'es là ? Tu nous entends ? Ah, on a perdu Younes. Ah, Younes, supporter toulousain en plus, ah. Voilà, dans une soirée un peu compliquée pour les Lyonnais, lui il avait le sourire. Quoi,
bah, mais... C'est que Younes, il nous appelait très souvent jusqu'à la descente du TFC. Ouais. Que c'est un vieux de la vieille de l'after.
Bon match, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais le TFC, 11e de Ligue 1. Alors provisoirement, il faudra bientôt, bien sûr, attendre la fin du week-end. Mais bon, 12 points en 10 matchs. Au niveau de la prestation, ça joue.
Oui, on parlait du budget et du rapport qualité-prix par rapport à ce qui est proposé pour l'Olympique Lyonnais. Et si on fait ce rapport-là avec le TFC... Voilà, c'est très bien ce qu'ils font depuis qu'ils sont descendus. Damien Comolli a très bien travaillé avec son équipe. Comme disait Joe, Montagny a réussi à se mettre à la page avec tout ce qui est statistique, nouvelles technologies un peu, notamment pour utiliser le recrutement, pour ensuite avoir des joueurs qui rentrent dans le projet de jeu du club. Et honnêtement, c'est intéressant. Même moi, je découvre des joueurs. Alors Dalingra, je connaissais, Aboukal un petit peu moins, mais c'est vrai que il y a de la qualité dans cette équipe. On sent que c'est pas étincelant, c'est beaucoup moins fort qu'en Ligue 2, bien sûr. Mais honnêtement, c'est une équipe qui mérite.
Ça va se maintenir tranquille.
Oui, ça va pas être facile quand même, mais ils peuvent le faire.
Il y a plein d'équipes derrière, non?
Oui, voilà, il y a surtout ça. Après, si on fait la fine bouche, je suis peut-être un brin déçu du rendement en Ligue 1 de Branko van den Boomen.
Ah, je te rejoins aussi. Je me disais
Pendant le match. Il était tellement fabuleux en Ligue 2.
Ouais, ça, ouais.
Je m'attendais peut-être à un petit peu mieux. Je te dis pas qu'il fait des matchs atroces, hein, loin de là. Mais par rapport à la magie qu'il était capable de créer en Ligue 2, je pensais qu'il franchirait le cap de la Ligue 1 assez aisément. Bon, on est loin d'avoir le même niveau de performance. Dalinga, je suis un petit peu déçu aussi. Bon, parce que je connaissais. Il est jeune, il a pas grande expérience, mais pour l'instant, c'est pas encore vraiment ça. Mais c'est typiquement le genre d'équipe, et je pense que le Van den Boomen en bénéficierait aussi. C'est typiquement le genre d'équipe qui passerait un step au-dessus s'il avait un attaquant, tu sais, le profil d'attaquant un peu expérimenté de Ligue 1. Le mec qui connaît déjà la Ligue 1.
Normalement, ils ont Ricilé, hein, qui avait bien débuté, mais qui s'est fait malheureusement une grave blessure. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui était plus expérimenté.
C'est pas ce genre de profil que j'ai en tête. C'est vraiment l'attaquant de Ligue 1 qui est capable de mettre 10-12 buts dans la saison, qui connaît le truc.
10-12 buts, Ricilé. Hein. C'est un bon joueur, vraiment.
Bon, c'est un bon joueur.
Et pour le coup, c'est un Irlandais, je crois, non ? C'est un Anglais qui a joué en Irlande, je crois. Il a joué en Irlande. Mais en tout cas, après, tu vois, tu parlais de Dalingra. Dalingra, c'est un joueur qui était en D2 néerlandaise, qui n'avait même pas encore joué en Eredivisie. Pareil pour Van den Boomen, il n'a jamais joué en Eredivisie. Donc, c'est des joueurs qui ont plein de qualités, mais qui sont quand même encore.
Tu n'attendais pas mieux de Van den Boomen après ce que tu avais vu?
Moi, je trouve que c'est déjà pas mal, hein, honnêtement. Dans le jeu, il est un peu moins décisif, mais
il a quand même des stats. Tu vois,
bien sûr.
4 passes décisives, en fait.
Énorme, 4 passes décisives.
L'air de rien, tu vois. On le juge peut-être un peu sévèrement, mais déjà 4 passes
après,
décisives.
Après, c'était une équipe Toulouse qui dominait ses adversaires en Ligue 2. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus de coups de pied arrêtés.
Tu sais, moi, ce que je m'attendais, c'est de voir. Quand je voyais TJ Savanier en Ligue 2, à Nîmes, je le voyais avec Larry Azouni au milieu de terrain. C'était fabuleux, tu vois. Et le rendement qu'il a eu quand il a débarqué en Ligue 1, c'était le même. Je m'attendais un petit peu au même genre de performance.
En tout cas, Toulouse recevra Angers la semaine prochaine. Donc, match important.
Un match gagnable.
Si ça passe bien Angers, ça peut donner une suite des saisons assez tranquille entre guillemets pour les Toulousains. Et Lyon, ça va se corser encore plus, hein. Déplacement à Rennes la semaine prochaine pour l'Olympique Lyonnais.
Marseille aussi qui arrive.
Ouais, un gros programme qui arrive. 23h43, on va faire une dernière pause ce soir dans l'after. Et dans un instant, l'OM au programme. Pensez-vous que Balerdi a raison quand il estime que le titre est possible pour l'Olympique de Marseille? On vous attend au 32-16, supporters de l'OM, bien sûr, mais d'autres clubs, pourquoi pas, supporters parisiens, monégasques, rennais, je ne sais pas, n'hésitez pas. Le 32-16, venez donner votre avis dans l'after. Ouais, a priori, ils seront moins concernés cette année, en tout cas. Mais comme dirait l'autre, on vous le souhaite en tout cas. Et puis, je vous donnerai toutes les infos du jour dans quelques minutes.
Ouais. Méloman, imitateur.
Imitateur, c'est pas fou. Mais je me
DJ,
dis quand je,
DJ.
Quand je vois Cantelou, je me dis, tu vois, c'est pas pire.
En gros, toi, t'es prêt, t'as loupé ta carrière d'animateur de mariage, quoi.
Et c'est peut-être pas fini. Là, je suis en train de me donner une idée.
S'il a une voix pour ça.
Un peu. 3h44. Ouais. Tu sais combien. Bon, bref. 23h44 dans un instant, l'after continue.
Tu le diras pendant la pub.
Avec Jonathan McCarty, Kevin Diaz, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz et Jonathan McCarty, merci d'être là ce soir les gars, n'hésitez pas, hein, vous êtes avec nous, je vous lis, vous commentez l'émission, le hashtag RMC Live sur les applis Direct Studio, vous pouvez nous appeler encore, hein, Adrien là au standard, le 32-16 si vous voulez réagir à notre débat du soir sur l'Olympique de Marseille ou sur l'actu du jour. On parlera de Franck Ribéry dans quelques minutes, tout proche de la retraite, mais intéressons-nous à l'OM et au Paris Saint-Germain qui sont au programme demain, hein, de cette 10e journée de Ligue 1, pas encore face à face, Marseille-Ajaccio 17h, Reims-Paris Saint-Germain 21h, et effectivement dans 9 jours, 17 octobre, PSG-OM. Et après un quart du championnat, l'OM est deuxième à seulement 2 points du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui en conférence de presse, on a demandé à Leonardo Baiardi, est-ce que Marseille peut être champion de France ? C'était la réponse du défenseur.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a la possibilité, une approche. Si tu veux gagner un championnat, tu dois faire les choses bien parce qu'ils sont très forts. Et après, on peut pas permettre de perdre des points, et comme le match est demain ou chaque match. On doit gagner tous les points possibles. Et après, on doit voir.
Voilà, aujourd'hui, Leonardo Baiardi au micro de Florent Germain.
On a souvent souri en parlant de Baiardi. Par contre, je voudrais quand même souligner très sérieusement sa qualité de français. Parce que ça montre quand même un joueur qui est impliqué, ça montre un joueur. Je me disais souvent, il joue pas non plus pour rien, Baiardi. Ça veut dire qu'il doit quand même avoir des qualités.
Il est un bon français. Donc.
Voilà. Non mais des qualités. Non mais c'est pas que un bon français. Ouais. Il y a un moment, c'est aussi de l'intelligence de dire je suis dans un pays, il faut que j'apprenne la langue pour mieux m'intégrer. Il y a des Sud-Américains, je citerai pas les noms, mais qui sont restés 10 ans en France et qui ont jamais dit un mot de français. Et faire une conférence de presse en français, ça fait pas si longtemps qu'il est là. Je trouve ça très bien.
Ouais. Supporter marseillais, on vous attend au 32-16. Pensez-vous comme Baiardi que le titre est possible pour l'OM? Kevin, Jonathan, il s'emballe un peu ou pas là, Baiardi?
Dernier mot sur Baiardi. Moi qui est un des bon principaux détracteurs, je dois avouer que depuis le match contre Rennes, il fait des prestations qui sont honorables, voire bonnes, voire même parfois très bonnes. Et c'était pas gagné. Rappelez-vous le match contre Nantes quand il sort comme ça, qu'il est un petit peu. C'est contre Nantes, non?
Non, mais après, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un débat Baiardi à minuit entre nous. Mais là,
c'est important de parler du contexte avant d'accord. de répondre à cette question.
C'est un joueur qui arrive, qui est en confiance, alors qu'il avait la tête dans le sac. Je sais plus. C'était contre Lille où il rentre, il sort, où il est sorti à la mi-temps, avant la mi-temps, ouais. Donc voilà, c'est un joueur qui revient de loin, donc qui est sur une bonne dynamique, et c'est à l'image de l'Olympique de Marseille. T'as l'impression que cette année, effectivement, Marseille a la profondeur de banc nécessaire pour jouer sur tous les tableaux. Je suis quand même inquiet sur la blessure de Jonathan Clauss. Je pense que Clauss et Tavares, c'est les deux joueurs qui sont irremplaçables dans cette équipe-là.
Clauss et Guendouzi absents ce week-end, groupe.
Mais je pense que Guendouzi, tu peux le remplacer avec Valentin Rongier ou avec Jordan Veretout, qui n'est pas bon depuis le début de saison. Moi, je suis extrêmement déçu des prestations de Veretout. J'ai 2-3 infos là-dessus, mais c'est pas le soir pour on peut en parler.
Mais sur ce soir de titre, là, il s'emballe ou pas, Baiardi?
Je te réponds. Laisse-moi finir ta réponse. Ma réponse. Donc, il y a deux joueurs qui, pour moi, sont pour mettre dans le formal, c'est Tavares et Clauss.
Okay.
Je pense que Mbemba aussi. Faut absolument qu'il ne lui arrive rien du tout. Mais t'as l'effectif pour jouer le titre. T'as l'effectif pour jouer le titre et t'as surtout la dynamique. Alors tout va dépendre encore une fois du parcours de Paris en Ligue des Champions. Si Paris se sortir vite en Ligue des Champions, bon bah voilà, ils ont plus que le championnat et ça va être très compliqué. Ça va dépendre aussi du parcours de Marseille en Ligue des Champions. Mais très franchement, c'est l'année où jamais pour faire une épopée comme Lille, une épopée comme Montpellier, une épopée comme Monaco.
Kevin.
Moi, honnêtement, je pense que c'est quasiment impossible. Après, attention, dans le football, tout peut arriver. Comme dit Jonathan, en fonction du parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, en fonction des blessures qui vont arriver dans les deux clubs, c'est clair que si t'as pas Jonathan Clauss et Nuno Tavares, c'est mort. Par contre, voilà.
Et Mbemba aussi. Ouais, c'est les trois indispensables.
Ouais, moi, je dirais surtout les Pistons, même si Mbemba est bon depuis le début de saison. Après, moi, je trouve qu'il y a trop d'écart. Il y a trop d'écart entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Le PSG n'est même pas.
Pour l'instant, il y a que 2 points.
Ouais, d'accord. Mais je veux dire, dans le jeu, le PSG n'est même plus bon depuis 3-4 matchs et arrive quand même à enchaîner les victoires.
Justement, c'est peut-être là-dessus aussi que Baiardi voit qu'il y a peut-être quelque chose à jouer.
Non, moi, le seul truc qui peut aider les Marseillais à être champion, je vais dire juste à accrocher le Paris Saint-Germain le plus longtemps possible, c'est la Coupe du Monde peut-être. En fonction de ce qui va se passer à la Coupe du Monde, peut-être qu'il y aura une petite période de latence pour le PSG qui a beaucoup d'internationaux, qui a notamment ses trois joueurs les plus importants qui vont jouer cette compétition. Mais sinon, l'effectif marseillais est très correct, mais l'effectif du PSG va encore être renforcé, voilà. N'oublions pas, à la trêve hivernale, en janvier, exactement. Le PSG, ce qu'ils n'ont pas pu faire cet été, ils peuvent le faire en janvier. Honnêtement, j'entends Balerdi, j'aime son ambition, ça me pose aucun problème, au contraire. Mais
tu sais très bien que cette année, le marché des transferts, le vrai marché des transferts, ça va être cet hiver. Donc tu sais très bien que l'équipe du PSG qui sera là après le mercato hivernal, ce sera pas du tout la même. Les grosses recrues qui n'ont pas été faites cet été, toi tu dis peut-être, moi je suis quasiment sûr que ça va être un marché qui va être totalement fou. Ça sera le plus gros mercato hivernal de l'histoire. Je pense que des joueurs, notamment derrière, vont arriver et que ça va être dur, tu vois, de les prendre.
Après, le vrai test pour l'OM, c'est dans 9 jours. Hein.
Voilà.
Dans 9 jours, il va falloir montrer est-ce que tu es capable d'accrocher le PSG ou pas.
De Mourad.
Parce que faut oublier que Lille, il y a 2 ans, ils sont champions.
Mais ils
battent le PSG quand même. Ils battent le PSG au Parc. Et Montpellier aussi les accroche au Parc. Donc,
Mourad écrit en tant que supporter marseillais sur le Direct Studio, faut arrêter de délirer jamais de la vie. Avec lui, on va prendre une valise. Il aurait mieux fait de se taire au lieu de les chauffer aux Parisiens, écrit Mourad. Anthony est là. Il nous a appelé au 32-16, supporter de l'OM. Salut Anthony.
Salut tout le monde.
Bienvenue dans l'After, Anthony. Merci d'être là. Alors, il s'emballe ou pas, Balerdi?
Ça dépend. S'il fait les conneries qu'il fait d'habitude, il s'emballe un peu. Ouais. Après,
il faut voir. Ça va dépendre de lui.
Oui, concrètement, de lui. Après, de tout le reste de l'équipe, comme vous disiez, le recrutement n'a pas été pourri. On s'est renforcé notamment sur les ailes avec Klos et Tavares. Peut-être un petit manque en attaque avec le départ de Milik et seulement l'arrivée de Suarez. Bon, il y a Sanchez, mais je vois plus comme un faux neuf. Il faut vraiment falloir un neuf devant. Après,
Bamba.
Oui, mais bon. Après, il va falloir qu'il réintègre lui aussi. Il y a eu des petits soucis cet été. S'il réintègre et qu'il fait un parcours correct, on va dire tout le reste de la saison, ça peut être jouable.
Mais en aparté, il faudra peut-être parler quand même du travail de Milik avec la Juve quand même.
Oui, j'ai vu. J'ai vu, c'est sûr. Après, à Marseille, tu sais comment c'est toujours pareil. Ça marche bien, on t'aime. Et puis après, dès que ça va plus, on veut que tu dégages, que tu exploses ailleurs. On dit oui, mais les dirigeants, c'est des cons, ils l'ont lâché.
En tout cas, Anthony, j'imagine que ce PSG-OM dimanche de la semaine prochaine, là, dans 9 jours, pour les supporters marseillais, tu dois l'attendre. Est-ce que tu te dis que c'est le match qui va faire basculer ta saison? En gros, ce soir-là, tu verras si tu peux rêver ou pas, c'est ça?
Oui et non, parce que comme vous avez dit, après il y a malheureusement une différence trop importante. Donc est-ce qu'on peut le faire? C'est jamais impossible. Mais après Paris contre nous, leurs joueurs ils sont moins.
T'as oublié le match au Parc l'année dernière? Tu te fais voler par l'arbitre. Hein.
Ouais.
Ça doit finir à match nul minimum. Tu te fais clairement voler par l'arbitre. Et Paul Lopez, en plus, il avait la tête dans le sac. T'avais l'impression qu'un tir cadré, ça faisait but. Mais sur le match, t'es supérieur à Paris. Il y a des situations très litigieuses. Il y a le but de l'égalisation qui refusait très bizarrement à William Saliba. Tu les as regardés dans les yeux et tu mérites de repartir avec au minimum un point.
Bon, en tout cas, ça promet d'être un PSG-OM. Voilà, ces dernières années, c'est pas toujours le cas. La premier contre deuxième, si tout va bien, la semaine prochaine. Mais d'ici là, demain, Ajaccio, Marseille à 17h.
Même plus que ça.
Et Reims PSG 21h sur Reims.
Ça peut être un match pour prendre la tête de la Ligue.
Ça peut être magnifique. Merci Anthony de nous avoir appelé ce soir.
De rien,
Anthony.
Merci, bon week-end. À bientôt. Bye bye Anthony. Merci. 23h54. Pour terminer, quelques infos du jour à vous donner. Vous l'aviez probablement et c'était un des points de Jonathan. Franck Ribéry va prendre sa retraite très probablement. Son agent David Elipi l'a confirmé à l'AFP qu'il est proche de la retraite. Il a 39 ans. Il est à la Salernitana depuis l'année dernière. Il a des douleurs au genou. Il a pas joué depuis le mois d'août et il devrait dire stop. Franck Ribéry.
À 40 berges.
Il a mon âge.
Voilà.
On est de la même année.
Tu te rends compte, toi, ça fait combien de temps que t'as arrêté de jouer?
Ah, ça fait 3 ans. Ouais. Donc bravo à Ribéry hein, quand même, parce que jouer jusqu'à 39 ans, c'est beau.
Mais on l'avait
un peu perdu de vue ces dernières années. Oh, et comme
à la FIO, il a fait
la première année. Mais le Ribéry des fin 2000, début de 2010,
Alors en France, on garde forcément
top 5 mondial pendant 3 années.
Ballon d'or 2013. Ballon d'or moral 2013, ouais. Comme Schneider et Ballon d'or moral 2010, Ribéry et Ballon d'or moral 2013.
J'irai pas jusque là personnellement, mais après c'est vrai que c'est une légende quand même, c'est une légende du football français. Alors on en a malheureusement gardé une mauvaise image avec la fin et le nice. Coup de Nasna, les claquettes, machin. Mais au Bayern, c'est quand même une légende d'un des plus grands clubs du monde. Donc bien sûr qu'il faut respecter sa carrière. Bravo à lui parce qu'il a eu un début de carrière compliqué. Il a rien lâché et derrière il a montré ses qualités avec un style vraiment atypique. C'est un joueur que tu reconnaissais tout de suite par sa gestuelle, par ses accélérations sur le terrain. Et vraiment, c'était un beau joueur de foot.
Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que moi, c'est dans mes trois points, mais j'insiste là-dessus. Il y a rien qui ne le prédestinait à avoir cette carrière-là. Quand Jean Fernandez va le rattraper par la peau des fesses alors qu'il est en Turquie à Galatasaray, c'est un joueur qui est certes très talentueux mais qui est dans une situation d'instabilité au niveau de la gestion de sa carrière, et que Jean Fernandez aille le chercher là-bas, l'amène à Marseille, ça a sauvé sa carrière, ça a fait de lui le joueur qu'il est devenu. Je pense qu'il peut faire un gros merci à Jean Fernandez, un gros merci à Pape Diouf qui a su le cadrer pendant sa période marseillaise pour devenir le joueur fabuleux qu'il est devenu après.
Et puis autre chose que je voulais partager avec vous ce soir, c'est une affaire qui monte depuis quelques jours et surtout depuis quelques heures. Les témoignages se multiplient sur les fouilles qu'ont subi les supporters et supportrices du Paris Saint-Germain à Benfica en Ligue des Champions mercredi. Vous allez sur rmcsport.fr, vous pouvez lire et entendre plusieurs témoignages de fouilles très poussées, fouilles corporelles très poussées, avec notamment une supportrice qui témoigne avec des palpations même sous les sous-vêtements mercredi soir. Alors le PSG prend l'affaire au sérieux parce que le président Nasser Al-Khelaïfi est conscient de ce qui s'est passé. Il est très inquiet au nom des supporters du Paris Saint-Germain. Alors, du côté du club portugais, on nie toute irrégularité ce soir. Mais voilà, sachez que c'est une affaire qui monte et dont on va probablement encore parler dans les prochains jours. Voilà, c'est fini pour ce soir, les gars. Jo, Kevin, merci beaucoup.
Merci
à Adrien au standard. Merci à Max, à Toto en régie. Merci surtout à vous d'être là. Comme tous les soirs, je vous ai lu, vous avez été particulièrement nombreux ce soir. L'after revient demain, 21h. Bonne nuit, l'équipe.
Ciao. RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.